Et à l'aveuglette, une table ronde sur le sous-développement durable, un comité sur la médecine en dessous de la table, une commission d'enquête sur la science-fiction, et la Cour suprême se penchera sur l'autodérision. Des jambes coupées, des trous dans le plafond, des morceaux décollés, encore une occasion de faire une soudure mexicaine, juste pour que ça tienne, en attendant qu'on trouve l'argent pour faire parler Bobo. Deux, trois clous, un bout de broche, pour pas que ça décroche, en attendant qu'on prenne le temps de faire les choses comme il faut. Une soudure mexicaine, juste pour que ça tienne, en attendant qu'on trouve l'argent pour faire les paris Bobo. Deux, trois clous, un bout de broche, pour pas que ça décroche, tellement patché le monde entier, tiré par la peau des fesses, pour le meilleur et pour le pire, les patentes font des prouesses.
Écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Culture, c'est votre rendez-vous culturel épicurien tous les mercredis à 11h sur les ondes de CKIA FM et CKIAFM.org en compagnie de Julie Réaume. Musique, art de la scène, art visuel, théâtre, bouffe, boisson et plus encore, soyez des nôtres tous les mercredis à 11h pour l'émission Culture.
Dignité Noire. L'émission qui porte sur les communautés noires d'ici et d'ailleurs et qui s'adresse à tout le monde.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux.
Tous les lundis à partir de 19h sur CKIA 88.3 FM.
Tous les jeudis, un buffet sonore aux saveurs vintage à CKIA. DJ Richard vous invite à déguster un menu relevé de pièces instrumentales et de chansons du 20e siècle en guise d'apéro musical. Passons à table pour le buffet de 17h.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique soul R&B avec Ingo Nirina. L'auteur-compositrice-interprète présente Toujours plus loin, un album lumineux porté par l'optimisme et la douceur. Entouré de quatre musiciens, il fusionne pop, groove et soul dans un univers unique chargé d'émotions. Le 1er novembre, vivez une soirée soul R&B chaleureuse avec Ingo Nirina au Palais Montcalm.
Préparez-vous! Du 17 octobre au 2 novembre, le Festival international du conte Joe Violon revient avec une édition sans queue ni tête. Des conteurs passionnés, de la musique et des soirées uniques qui font rêver, rire et réfléchir. Festival Joe Violon 2025, l'art du conte comme vous ne l'avez jamais entendu. Tous les détails sur notre site web, joeviolon.com.
La Ligue d'improvisation musicale de Québec poursuit sa 21e saison le lundi 3 novembre à l'Impérial Bell.
Les bleus et les rouges s'affrontent sur des thèmes proposés par l'intraitable arbitre. Le lundi 3 novembre à 19h30 à l'Impérial Bell, pour l'entendre, pour le voir. Impromusical.com.
Quand elle s'en va, la fleur.
Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier.
Bonjour, bienvenue à Épilogue. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de Ryoko Sekiguchi, de Isabelle Lapointe et on rencontre Marie-Ève Martel. Bonjour à tous et bienvenue à Épilogue, le magazine littéraire de CKIA FM. Valérie Gaudreau, microphone. Très heureuse de vous accueillir et de vous retrouver avec nos collaborateurs, collaboratrices, dont une qu'on n'a pas entendue depuis un moment, Geneviève Bossé. Bonjour.
Hola, hola.
Oui, hola. Donc, tu as eu le temps, un très beau voyage, nous dit-on, hors des ondes,
oui.
Au Pérou.
Trois semaines au Pérou, paysage magnifique, gens accueillants, dépaysement. Un voyage d'une vie, je pense.
Wow! Alors, formidable. Ça valait bien la peine de manquer un petit mois d'épilogue pour ça. On a aussi Annie Bussière qui, elle, a eu quand même des voyages un peu plus compromis cet automne. On reviendra pas là-dessus.
On reviendra pas là-dessus, mais disons qu'elle saura se reprendre en 2026.
Et peut-être pas le Japon cette fois-ci, mais c'est une autrice japonaise dont tu vas nous parler.
Exactement, j'en avais déjà parlé l'année passée pour son livre Nagori. Je reviendrai là-dessus dans ma chronique tantôt. Je vous présente le tout nouveau L'appel des odeurs de Ryoko Sekiguchi.
Alors, il y a aussi Brian Saint-Louis, plus, discret aujourd'hui, parce que tu as lu quand même, mais tu ne nous en parles pas.
Je vous en parlerai plus tard, mais pas cette semaine. Je suis juste au piton cette semaine, d'autant plus qu'il y aura des pitons à faire. Oui. Tu vas parler avec quelqu'un au téléphone, c'est toujours une mission de te faire peser sur les bons boutons. On va appeler Marie-Ève Martel.
Après 20 ans d'épilogue, je peine encore, auditeurs et auditrices, à ne pas mettre off.
À maîtriser le processus pour les appels téléphoniques.
Voilà.
Mais là, tu vas parler avec... Une fois l'appel lancé, oui. Ça va très bien aller parce que tu connais bien Marie-Ève Martel. C'est pas la première fois qu'on lui parle.
Non.
C'est pas son premier livre. Mais là, c'est un livre qui a l'air très personnel, contrairement à ses autres essais sur le journalisme qu'elle avait l'habitude de nous proposer. Cette fois-ci, on a l'air plus dans le... L'autofiction?
Oui, tout à fait. En fait,
c'est pas de fiction, le récit.
Littéralement, on est presque dans la biographie, ou en tout cas, un passage important de sa vie. En fait, celui du décès de sa mère, qui avait plusieurs problèmes de santé psychologique, de dépendance. Et ça fait une jeune Marie-Ève très anxieuse, très inquiète du sort de sa mère, toute son adolescence, toute sa vie. Et elle ose admettre que le décès de sa mère a été une certaine libération. Alors, c'est un peu tabou, mais c'est plein de douceur, plein d'introspection et de réflexion. On lui parle tout de suite après cette pièce qui n'est pas habituelle dans le registre d'épilogue, mais c'est une pièce que sa mère, Martine, fredonnait lorsqu'elle était saoule. Alors, c'est pas très joyeux, mais on écoute Still Loving You, The Scorpions.
Back your love again, I will be there.
Scorpions, Still Loving You. Il y a un contexte de cette pièce qui se retrouve dans le livre Un jour, j'ai pu m'envoler de Marie-Ève Martel. Marie-Ève, qui est journaliste professionnelle depuis plus de près de 15 ans maintenant, a publié 4 ouvrages sur le journalisme, Extinction de voix, sur l'information régionale, Privé de sens, sur l'accès à l'information, Prendre parole, lettre de la plus si jeune relève journalistique et Pas de lapin dans le chapeau. Donc, tous des ouvrages très publics, très reliés au monde de l'information, du journalisme et de l'éthique journalistique. Mais en septembre, elle lançait son 5e livre et assurément le plus intime, le jour où j'ai pu m'envoler. Ce jour-là est celui du décès de sa mère Martine. Marie-Ève Martel avait 25 ans, une mère aux problèmes de santé mentale, l'alcoolisme, divers problèmes d'attachement aussi. Alors, c'est pas Jojo, mais Marie-Ève Martel, on va trouver la lumière dans cette entrevue. Bonjour!
Bonjour Valérie.
Alors, on se connaît toutes les deux, hein, et faut le dire au fil des ans, là, par la communauté journalistique. Je suis certaine que, comme beaucoup de gens de ton entourage, évidemment moins proche, mais peut-être élargi, parce que tu connais beaucoup de monde dans la vie. Je savais le décès tragique de ta mère, mais jamais tu t'es livré autant. Même si c'est bouleversant à entendre, pourquoi son décès là, t'a permis cette forme de libération que tu partages aujourd'hui?
Exactement. Ben, mon histoire, je m'en suis jamais cachée, Valérie. C'est juste que, tu sais, j'en donne pas nécessairement les détails parce que c'est pas la chose que je mets de l'avant quand je rencontre des personnes. Hein. J'ai plein de projets. Je suis une personne à part entière. Mais en fait, ce projet-là, ça a commencé vraiment pour à titre de journal intime. J'ai confié des choses à partir du moment où ma mère est décédée. Et puis là, ben après 10-12 ans de rédaction, j'avais quelque chose, puis je me suis dit, ben peut-être que ça peut servir à d'autres personnes de lire ça. Donc, c'est vraiment pas un essai biographique que j'ai fait pour me mettre de l'avant pour jouer du violon. C'est plus, je me dis, ben moi, ce que j'ai recueilli comme réflexion, comme apprentissage dans mon processus de deuil, il va peut-être servir à d'autres personnes. Puis c'est pour ça que j'ai livré ce récit-là. Puis évidemment, j'ai pas tout mis non plus dans le livre. Là, c'est pas un exercice de nudité.
Et d'ailleurs, bon, ta mère, il y a un cas effectivement personnel qui a vraiment eu des années extrêmement difficiles, de diverses dépendances, comme je disais, aussi ben, une mort tragique, un suicide, même si au départ, on n'était pas trop certain. En fait, elle est morte seule de ses excès à certains égards. Tu abordes ton cas, et tu l'as bien dit, aussi à l'aide de recherches sur la notion d'enfant parentalisé. Tu as été une bonne partie du temps la mère de ta mère.
Oui, exactement. Puis c'est quelque chose que, bon, la littérature scientifique s'intéresse un peu à ça, la parentification des enfants.
Ouais.
Puis c'est quoi la parentification? Ben, c'est quand l'enfant prend le rôle du parent, de son parent. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si rare que ça, c'est pas banal, mais c'est plus commun qu'on le croit. C'est une forme de proche aidant, ça aussi. Hein? Là, on approche bientôt la Semaine nationale des proches aidants, mais quand on le vit, on n'en est pas conscient. Quand on est un enfant, ben nous, l'enfance qu'on vit, on pense que c'est l'enfance la plus normale parce qu'on n'a pas de comparable. Donc. C'est après qu'on réalise.
Et dans la petite enfance, tu le confies dans le livre, tu as quand même eu une certaine stabilité. Là. Il y a peut-être le divorce là, qui a été, et ça, c'est le cas où plusieurs personnes se reconnaîtront. Il y a une rupture dans tous les sens du terme à ce moment-là.
Oui, bien c'est sûr que tu sais, quand on a 3-4 ans, on n'a pas encore la pleine conscience de ce qu'on vit. Hein. Je veux dire, on subit, on réagit beaucoup plus qu'on influence notre environnement, mais il y avait déjà, avec le recul, des signes que ça, c'était pour arriver, que ma mère n'était pas capable de prendre soin de moi comme elle aurait voulu ou comme elle aurait pu le faire. Et là, ben mon père avait compensé, mais effectivement, dans mon cas, c'est quand mon père a choisi de quitter ma mère pour se protéger et dans l'objectif de me protéger de ses excès à elle, que c'est là où vraiment... la dynamique familiale a changé. Et là, moi, ben j'ai comme été un peu préparée sans m'en rendre compte à prendre le rôle de ma mère, le rôle de la mère de ma mère.
Et ça se traduit. Il y a une chose qu'une mère a pour ses enfants, et ça traverse ton livre. Moi, j'ai c'est absolument rien de comparable, mais j'ai, disons, accompagné ma mère dans les dernières années en raison de maladie d'Alzheimer. Et le mot... C'est culpabilité et inquiétude. Hein? C'est deux termes que les proches aidants ont souvent. Mais j'ai l'impression que ton adolescence, le début de ta vie adulte, a été sous le signe de l'inquiétude. Et c'est là que les ailes étaient attachées, en fait.
Exactement. Tu mets les bons mots. Parce que, dans le fond, tu sais, on s'inquiète parce qu'on aime la personne. On sait qu'elle est à plusieurs risques. Moi, je veux dire, j'ai passé 18 ans de ma vie, ben, peut-être pas 18 parce qu'à ce temps, j'avais pas la même conscience, mais facilement une bonne douzaine d'années de ma vie à avoir peur de trouver ma mère décédée, qu'elle fasse irréparable. De me dire, ben là, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais? Et je me rends compte que comme adolescente et comme jeune adulte, parce que tu l'as dit, elle est décédée, j'avais 25 ans, il y a beaucoup de choses que je me suis empêchée de faire parce que j'avais peur de comment elle allait réagir. Par exemple, je pense à l'étudier à l'étranger, ben je me dis, si je pars plusieurs mois, voire un an en Europe, ben ma mère, comment elle va faire sans moi? Est-ce que je serai pas là s'il arrive quelque chose? Et en fait, cette inquiétude-là mène à la culpabilité parce que dès qu'on essaye de penser à nous, on n'est pas comme ça. On a tendance à faire passer les besoins de l'autre avant et c'est là qu'on finalement on ressent de la culpabilité à penser à soi, alors que c'est tout à fait normal et même que c'est sain.
Et parce qu'il y avait, au-delà de effectivement de comportement ou de consommation, il y avait un trouble qui était là, le trouble de la personnalité limite, en fait, des gens qui sont assez doués pour le sabotage hein, dans leur entourage, ces gens-là.
Ben oui, puis malgré eux, parce que c'est... En tout cas, si je prends le cas de ma mère, parce que c'est le seul que je connais assez bien pour en parler publiquement, ma mère avait une soif d'amour insatiable, et malheureusement, elle voulait être aimée, mais c'est qu'elle était incapable de penser qu'elle méritait de l'amour en même temps. Donc, si elle recevait de l'amour, pour elle, c'était pas vrai, c'était une illusion, ou ça allait finir par répéter d'en face. Donc, ce qu'elle faisait, ben c'est qu'elle elle repoussait malgré elle les gens dont elle voulait l'amour. Finalement, ben, c'est une prophétie autoréalisatrice. Donc, elle se donnait raison qu'elle n'existait pas de l'amour parce que l'amour ne restait pas. Donc, oui, c'est du sabotage.
Oui, comme si elle voulait que le réel conforte la faible estime qu'elle avait d'elle. Donc, d'être aimée, c'est en dissonance cognitive, là, finalement.
Ben c'est ça. Puis c'est malheureux parce que, je veux dire, c'est sa maladie qui faisait ça. Mais si ma mère avait pu se voir à travers mes yeux, à travers les yeux de plein de personnes autour d'elle... Elle aurait compris qu'elle n'a jamais manqué d'amour.
Et voilà, et ça, c'est extrêmement... Puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître d'entre l'image publique, la sphère privée d'une personne. Ta mère, elle était vive d'esprit, elle avait beaucoup d'humour, tu le dis. Elle écrivait des poèmes, t'en retranscris plusieurs à la fin du texte. Elle aimait la musique, la culture. Donc, c'était une femme attachante pour l'entourage. Alors, toi, comme jeune, qui, par exemple, les amis venaient à la maison, ça devait être... très particulier, tu dirais, ta mère est cool, alors que toi, tu sais tout ce que tu vis à l'intérieur.
Ben, ces deux images-là, pour moi, ne sont pas irréconciliables. Parce que, je veux dire, ma mère, la femme brillante, la belle femme, la femme charismatique, la femme intelligente, c'était elle que je voulais voir, c'était pour elle que je tenais bon, parce que j'espérais. Et, l'enfant que j'étais, l'adolescente que j'étais, ben, c'est sûr que ça, à un moment donné, j'ai compris que c'était pas ça, mais moi, je pensais que je pouvais aimer assez ma mère pour la guérir, pour qu'elle reste cette femme-là tout le temps, tu sais, que la femme blessée, souffrante, qui fait souffrir les autres, finisse par disparaître, là, un peu comme si c'était un dragon dans un conte de fées.
Oui. Et t'es tellement bonne, Marie-Ève, je dois le dire, là, c'est pas de la flagornerie, t'es excellente pour mettre les mots aussi sur, autant en entrevue que dans le livre, sur ce sentiment et d'être transparente. Tu dis, sans doute des zones d'ombre là, que tu ne dévoiles pas tout. On n'est pas dans le journal intime, dans ce livre, un jour j'ai pu m'envoler, mais il y a une grande transparence à reconnaître les traces que ça a laissées, même après le décès, c'est-à-dire t'as la trentaine aujourd'hui, tu travailles fort, t'es mariée, t'as une belle vie, mais tu reconnais avec, je le disais, grande transparence que ton combat contre l'anxiété, par exemple, une forme de performance à tout prix, ça te suit, ça, dans ta vie adulte?
Bien, tout à fait. Puis en fait, de savoir d'où ça vient, pourquoi je suis comme ça, bien, c'est un grand pas dans la façon de cohabiter avec ça, parce qu'on se leurra pas. Il y a des choses que j'ai héritées à la loterie génétique que je ne guérirai pas. Puis je suis chanceuse, je veux dire. Puis j'ai drôle de dire ça, je suis chanceuse que j'ai un trouble d'anxiété parce que j'aurais pu effectivement développer un trouble de la personnalité limite ou autre chose qui aurait été encore plus difficile à vivre.
Ouais.
Mais c'est la question de comprendre puis de se dire, ben, à un moment donné, tu sais, c'est correct aussi, puis on n'est pas parfait, puis d'avoir de la compassion pour soi-même aussi. Tu sais, j'ai beaucoup de compassion pour ma mère parce que quand elle est décédée, moi, j'avais l'âge qu'elle avait quand elle m'a donné naissance.
Ouais.
Donc, c'est comme un peu... moi, j'ai toujours pensé, parce que dans ma famille, les femmes donnaient naissance à peu près à 25 ans. Donc là, moi, quand j'étais petite, j'étais comme, on va avoir un enfant à 25 ans. Puis finalement, ma mère est morte quand j'ai eu 25 ans. Et donc, en vieillissant, je me suis mis à avoir l'âge qu'elle avait dans les anecdotes que je raconte, donc dans mes souvenirs. Et cette maturité-là que je gagne, mon expérience de vie, m'a permis de voir ces situations-là à travers peut-être ses yeux de femme à elle, où elle était dans sa vie à ce moment-là, d'avoir une compréhension différente de ces événements-là. Et donc, ça m'a donné une espèce de compassion peut-être pour ce qu'elle a vécu. Puis ça me donne une compassion aussi envers moi, parce que en revisitant ces souvenirs-là avec mes yeux d'adulte, je me rends compte que comme enfant, je m'en étais mis beaucoup sur les épaules. Puis j'aurais aimé ça peut-être, tu sais, si je pouvais retourner dans le temps, de me dire à moi, la petite Marie-Ève, ben, t'es pas obligée d'accepter ça, t'es pas obligée de faire ça, tu sais. Donc, c'est de la compassion. Puis je pense que on a tendance à oublier qu'on était des enfants, les personnes parentifiées, puis on est très dur avec nous-mêmes.
Et d'ailleurs, la Marie-Ève de 36, 37, 38 ans qui a repris ce manuscrit ou ce désir de mettre sur papier n'est pas la même non plus que celle de 25 ans qui a écrit les premières lignes le lendemain du décès ou presque, là.
Ah non, absolument. Tu sais, je veux dire, ça a été un travail de longue haleine. Puis, tu sais, je dirais, quand j'ai commencé à écrire là, le Les Eaux Maudits, le premier chapitre, c'est à 90% tel quel que je l'ai écrit en 2013. Mais après, je veux dire, j'ai réécrit des exemples, j'en ai ajouté, j'en ai effacé aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai décidé de garder pour moi. Pourquoi? Ben, parce que de un, c'est ça, c'est ma vie privée, c'est mon histoire, c'est moi qui décide jusqu'où je suis prête à partager. Il y a aussi le fait que je pense que mon message passe très bien sans que j'aie besoin de mettre 50 exemples pour faire valoir mon temps. Et aussi parce que je veux pas faire le procès de ma mère. Tu sais, c'est pas parce qu'elle est plus là que je veux la démoniser, si on veut. Au contraire, je vis très bien avec le fait que j'ai eu une mère qui était imparfaite, qui a été très dure envers moi, mais qui a aussi des beaux moments. Puis c'est ça que j'essaie de peut-être normaliser à travers mon livre, que c'est correct et c'est normal que ce soit pas tout blanc ou pas tout noir, tu sais, parce que dans des situations comme celle-là, on peut avoir tendance à dire, ben, tu vas accepter tout, ou tu sais, quand la personne décède, tu vas un peu l'idéaliser.
La magnifier, oui, à travers ça.
Oui, et dans d'autres cas, ben, il y a des gens qui vont couper les ponts, qui sont capables de couper les ponts, et qui, là, cette personne-là, ne veulent plus jamais rien savoir d'elle, tu sais, dans mon cas. Le pont a été coupé quand ma mère est décédée, même si j'avais mis une certaine distance. Et c'est des émotions qui sont très contradictoires, d'aimer quelqu'un et d'haïr quelqu'un en même temps. Une personne avec qui on se fait toujours dire la relation avec la mère, c'est un amour plus absolu et inconditionnel. Ça peut être des émotions contradictoires qui sont difficiles à vivre pour des personnes. Et puis c'est ça que je voulais un peu normaliser aussi là, dans l'écriture de ce livre-là.
Et on le disait, en terminant, Marie-Ève Martel, on le disait en début d'entrevue, c'est un livre aussi pour les autres qui pourraient se reconnaître. Là, on se parle au moment où le livre a déjà s'est envolé, c'est le cas de le dire, déjà depuis près de deux mois. Tu as une très belle couverture médiatique, d'ailleurs, nationale là, pour ce livre. Est-ce que tu as reçu beaucoup de témoignages de lecteurs, lectrices? Quelle vie a ton livre jusqu'à maintenant?
Ben, écoute, c'est sûr que je peux pas parler de chiffre de vente parce que je ne lisais pas, puis c'est pas nécessairement le nombre d'exemplaires, mais les témoignages que je reçois, des gens qui, comme moi, étaient peut-être pas conscients qu'ils étaient paraplégiques, d'autres personnes qui ont un parent plus âgé, mais qui ont vécu la même chose quand ils étaient jeunes, vraiment des gens qui se reconnaissent, qui, comme tu l'as dit tantôt, ont enfin des mots à mettre sur ce qu'ils ont vécu, parce que c'est pas facile, des fois, d'identifier tout ça. Et même des gens qui n'ont pas vécu ça, mais qu'on me dit que ça suscite une réflexion sur notre rapport à notre famille, à notre rapport à nous-mêmes aussi, tu sais, d'apprendre à se privilégier aussi, à se mettre de l'avant. Donc, j'ai des beaux témoignages très humains, j'ai fait des rencontres enrichissantes, c'est beau. Puis je me dis, ben si je peux aider les gens à s'envoler à leur façon, ou à tout moins les préparer à ça, ben ça sera mission accomplie.
Et comme autrice, bon, il y a les salons du livre, il y a tout ça. Moi, je te connais, tu es une femme extrêmement chaleureuse, très sociable. Est-ce que tu as quand même, on le sait que des témoignages peuvent être quand même lourds. Hein? On est, quand tu parles d'un ouvrage sur la loi d'accès à l'information ou l'éthique journalistique, il y a une certaine, disons, distance plus cérébrale. Est-ce que tu penses quand même aussi à la manière de recevoir certains témoignages qui sont de nature souvent beaucoup plus impliquante, disons?
Ben c'est sûr, mais pour l'instant j'ai pas été confrontée à quelqu'un là, qui est en détresse et tout ça, mais c'est sûr qu'il existe des ressources et si j'étais confrontée à ça, ben c'est sûr que je m'assurerais peut-être de rediriger la personne vers les bonnes ressources, mais pour l'instant c'est vraiment c'est très valorisant le retour que j'ai. Les gens sont soulagés un peu, puis c'est ça que j'expliquais aussi, c'est que mon histoire elle est somme toute banale. Tu sais, je veux dire, oui, c'est mon histoire à moi, elle est unique, mais c'est un phénomène qui est tellement plus commun qu'on pense, mais qu'on n'en entend pas parler parce qu'on n'en parle pas, on a honte. Ou, tu sais, on se dit, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu sais, donc là, je pense que de pouvoir dire, ben, c'est un phénomène qui existe, ça a un nom, c'est correct. Puis peu importe la façon dont on le gère, c'est correct. Tu sais, on est des êtres humains différents, mais de savoir que ça existe puis de comprendre aussi tout ce qu'on peut passer à travers, mais là, c'est ça qui est intéressant parce que là, on peut cheminer par rapport à ça.
Certainement. Et en tout cas, c'est très bien fait. C'est un bon dosage, justement, entre récit intime et œuvre utile, documentée. Ça s'appelle « Un jour, j'ai pu m'envoler » de Marie-Ève Martel. C'est dans la collection Parcours aux éditions Somme Toute. Ton éditeur fidèle, Marie-Ève. Et je suis certaine qu'il y a un livre qui se prépare et qu'on va te recevoir de nouveau à Épilogue pour le prochain.
Ben, ça va me faire plaisir. Puis oui, je vais être à presque tous les salons du livre dans la prochaine année. Alors, vous êtes plus occupé que les
journalistes. Oui, mais oui, hein, effectivement, on élargit le champ. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève Martel. C'est un grand plaisir de se parler aujourd'hui. À la prochaine.
Merci, Valérie. Au plaisir.
Au plaisir. Voilà, merci encore. Marie-Ève Martel, très belle entrevue pour son livre. Un jour, j'ai pu m'envoler. On se déplace maintenant sur la Côte-Nord. Oui. Avec celle qui revient du Pérou, Geneviève Bossé, pour le livre, le roman Épinette d'Isabelle Lapointe.
Oui, roman qui est considéré un peu comme le roman de l'automne chez La Mèche. Donc, Épinette, paru mi-septembre, je crois. Alors, c'est quand même tout chaud. Tout frais. Isabelle Lapointe qui a fait du théâtre, elle fait aussi de la chanson, impliquée dans le monde culturel de la ville de Québec. Premier roman. Ce n'est pas 100% une autofiction, mais l'autrice s'est quand même beaucoup inspirée de son enfance sur la Côte-Nord.
Donc, on est dans l'enfance aujourd'hui.
Oui, donc on qualifie le roman d'un roman d'anticipation. Alors, la narratrice, c'est vraiment l'alter ego. Donc, est allée puiser dans ses souvenirs. On rencontre la jeune Isabelle, 8 ans, dont la famille vient juste de déménager de Baie-des-Cormiers à Saute-aux-Oiseaux, ville et village fictif de la Côte-Nord. Alors, on peut faire des liens, hein? Baie-des-Cormiers. Donc, je vous laisse deviner la suite. Alors.
Baie-des-Comos.
Oui, exact.
La fille n'a rien compris. Baie-des-Chaleurs.
C'est ça. Et saute aux moutons, au lieu de saute aux oiseaux. L'histoire débute, alors c'est un déménagement là, à saute aux oiseaux, une nouvelle vie qui commence pour la petite Isabelle, dont l'anniversaire est le 1er septembre, ce qui concorde avec la rentrée scolaire, une rentrée qui n'est pas nécessairement facile. C'est une petite fille grassouillette qui porte des lunettes. Alors, intimidation, dans la cour d'école, on sait que les enfants peuvent dire des trucs méchants. Alors, il y a de ça, donc, dans le roman. On aborde beaucoup la différence avec une panoplie de personnages hauts en couleur. Alors, on divise le roman. C'est pas des divisions claires, là, mais il y a vraiment... l'enfance au primaire et début de secondaire. Donc, la narratrice nous raconte ses journées d'école, sa rencontre avec son enseignante Jeanne Mance, une enseignante douce qui lui porte une attention remplie de gentillesse, contrairement aux autres enseignants et enseignantes qui sont plus rigides, à la limite insultants, vous ferez rien de vos vies. Alors, on est dans cette atmosphère-là d'un village où les gens sont pauvres, pas nécessairement éduqués. Mm-hmm. Alors, on est dans cette atmosphère où on rabaisse les gens, où tu ne feras rien dans la vie, c'est pas avec un 50% que tu vas devenir chirurgienne. Alors, il y a de ça dans le roman. La petite Isabelle vit dans une famille, somme toute normale. Elle a un demi-frère issu d'une relation précédente de sa mère avec un autre homme, le fameux Tommy. Un demi-frère qu'elle aime beaucoup et qu'elle aimerait connaître davantage parce qu'il n'habite pas avec eux. Une mère qui ressasse un peu le passé, qui, à un moment donné, retournera à l'école pour se sortir de là. Un père... qui n'a pas fait d'études, qui travaille en entretien ménager dans un hôpital. Alors, on est dans ce genre de famille-là où on s'habille avec des vêtements usagés, mm-hmm. où on a des vêtements dépareillés. Alors, on nage dans tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires, alors tous les voisins. Puis moi, des fois, je me dis trop, c'est comme pas assez.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent, disparaissent, réapparaissent. Puis j'ai eu l'impression qu'on survolait ces personnages-là.
Est-ce que c'est l'idée d'une galerie, un peu de personnages pittoresques, un peu colorés?
Oui, à la limite, on pourrait croire que c'est caricatural.
Mm-hmm.
Mais comme je disais tout à l'heure, au début de... avant qu'on entre en onde, Épinette se déroule sur la Côte-Nord, mais cette histoire-là, avec ma vie puis mes voisins, j'aurais pu la transposer dans mon coin de pays, sur la Côte-du-Sud, en Beauce. Donc, pour moi, ça n'a pas fait « wow », un village où on a plein de personnages colorés, parce que moi, je l'ai vécu, ça.
Mm-hmm.
Les parties de famille où il y a de la fumée, de cigarettes jusqu'au plafond, on prend un coup, les mononcles, les matantes, le petit voisin qui est différent de nous, puis qu'on rejette. Donc, tout ça, mm-hmm. moi, c'est pas nouveau.
Oui.
J'ai pas senti la nouveauté à un roman où on présente plein de personnages. Mm-hmm. Alors ça m'a un peu déçu et je me suis pas attachée aux personnages.
OK, quand même.
Puis il y en a beaucoup. Par contre, la narratrice, là, raconte bien et encore là, c'est vraiment une question de goût. La langue, elle est très... C'est de l'oralité de A à Z.
OK.
Donc ça, on aime, on n'aime pas. À la limite, moi, j'ai lu des extraits à voix haute chez moi, et là, ça sonne bien.
Mm-hmm.
Ça sonne bien parce que...
C'est théâtral.
Oui, puis probablement là, une petite déformation là, par rapport à sa formation. Mais lire en silence, puis je sais là, que ça fait partie de l'oralité, mais moi, là, tendu, ressoudu, queneuil, oh, ça écorche mes oreilles, mais je comprends l'utilisation. Ouais. Alors. Mais moi, ça me rejoint moins. Et comme je disais, bon, la Côte-Nord, oui, mais pas si présente que ça dans l'histoire. Et je trouve ça dommage parce qu'à quelques reprises, mais quelques, je dis peut-être deux, trois, on fait référence aux épinettes, aux étendues d'épinettes qui bloquent l'horizon. Et c'est là que j'aurais aimé que ces rangées d'épinettes-là aient davantage un impact. Bien, probablement que l'impact est là, mais... Moi, je ne l'ai pas senti. On est entouré dans d'épinettes. Il y a des feux de forêt.
Ouais.
Des épinettes.
Tu ne sens pas le territoire.
Pas tant. Mm. Puis les épinettes, c'est rachitique. Donc, on peut faire le lien avec la pauvreté, le manque. Mais à mon avis, ça aurait pu être beaucoup plus exploité. Puis on aurait senti davantage, justement, l'effet d'oppresser, l'oppression.
À t'écouter, Geneviève, on a le sentiment aussi, bon, Isabelle Lapointe est maintenant, comme tu dis, dramaturge, autrice. Est-ce qu'on est un peu dans cette foulée de plusieurs auteurs actuellement, là, j'ose plus le terme transfuge, là, on est tanné presque, là, mais de reconnaître d'où on vient dans une relative pauvreté dont on s'est extirpé finalement?
Oui, tout à fait, parce que moi, je l'ai dit, là, j'ai côtoyé Isabelle quelques semaines lorsque j'enseignais. Puis, c'est mentionné aussi que lorsqu'elle rencontre Jeanne Mance, son enseignante, bien, il y a tout ça aussi. Lorsque un des enseignants leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis il y a des gamins qui disent « Moi, c'est d'aller m'acheter une caisse de 24 », tandis que la petite Isabelle, elle, se projette plus loin. Ouais. Alors oui, puis on parlait d'autofiction, puis moi, l'autofiction, parfois j'aime, parfois j'aime pas, parce que le ou les thèmes ne me rejoignent pas ou moins. C'est un peu le cas ici, mais je comprends l'engouement parce que c'est un roman où la langue, elle est très colorée, elle est chantante. Si on aime la galerie de personnages qui est éclatée, on va embarquer. Mais ça reste que les thèmes comme la famille, l'enfance, les voisins, la Côte-Nord, il n'y a pas un qui se démarque en particulier, ce qui fait en sorte que, OK, ben c'est la vie l'enfance d'une petite fille qui se coiffe avec du spray net, qui se couche pour attacher ses jeans. Alors, puis ça, j'en ai déjà parlé aussi des fameux repères culturels.
Oui, oui, bon, oui, tout à fait.
Moi, je les connais parce que je suis un peu plus vieille que l'autrice, là, mais... OK, oui, t'es chanteur. Il y a ça aussi, puis on le disait, bien, l'autofiction, si ça nous parle, c'est parce que soit qu'on est de la même génération que l'auteur ou l'autrice, soit qu'on a vécu la même chose, dont t'en parlais tout à l'heure avec ton invité. Donc, moi, je suis un peu mitigée par rapport à l'autofiction, puis il y en a beaucoup ces dernières années. La mèche, là, on parle d'Hakim Gagnon, on parle de Sébastien Dulude avec Amiante. Alors, on est dans ça foisonne, hein? Donc, c'est pour ça que je comprends l'engouement. Moi, ça m'a moins touchée. Et il reste que de beaux passages là, imagés, des belles figures de style. Alors, ben, c'est à vous de voir. Là. Épinette, Isabelle Lapointe, aux éditions La Mèche. Roman de l'automne, selon plusieurs critiques.
Merci beaucoup, Geneviève Bossé. On va poursuivre. On s'en va au Japon après cette pièce.
Mais après un dernier petit passage au Pérou en musique, pourquoi pas, puisque Geneviève en revient. Dip, 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 dip
Vous n'étiez pas réveillé, vous l'êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA FM. Valérie Gaudreau avec vous. Et avec le dernier segment de cette émission, avec Annie Bussière, on était au Pérou avec Ima Soumak, on s'en va au Japon.
Ben en fait, Valérie, pas pour te déplaire, mais on n'est pas au Japon. Malheureusement, dans le dernier de Ryoko Sekiguchi, l'appel des odeurs, ça se passe un peu partout sur la planète et je vous explique pourquoi. L'idée derrière ce livre, c'est vraiment... Ryoko Sekiguchi tient un journal des odeurs. Dans sa vie, peu importe ce qu'elle aimerait sentir, ce qu'elle sent, ce dont elle se souvient, elle tient un journal des odeurs, puis elle travaille son vocabulaire. Puis vous savez, c'est une japonaise, mais maintenant, elle écrit en français.
Okay.
Alors, elle travaille aussi son vocabulaire en tenant ce journal-là. Et contrairement à Nagori, dont j'avais déjà parlé l'an passé, c'est pas un essai sur les odeurs. C'est un peu comme une espèce de recueil de vignettes sur les odeurs. Ces personnages n'ont pas de nom. C'est soit elle ou soit il. Les vignettes sont très, très courtes, 4, 5, 6 pages, pour nous parler d'un aspect des odeurs. Les odeurs de la cuisine, les odeurs des fleurs, les odeurs des livres. J'avoue que certaines des vignettes sur... Je sais pas vous, mais moi, quand j'achète un livre, la première chose que je fais, je le sens.
Ben oui.
Alors, c'est un peu ça. Et chacune des vignettes est entrecalée, oui, avec des extraits de romans, des citations de romans qui ont rapport aux odeurs ou des pensées que ses amis et ses proches ont sur les odeurs. Là, vous me dites, c'est fantastique. Moi, personnellement, je regarde la quatrième de couverture, je me dis, parfait. Puis on sait comment les odeurs sont rattachées aux souvenirs, oui, à la mémoire.
On dit que c'est tout... un des sens les plus... qui s'imprègnent le plus. Moi, j'ai des souvenirs...
De la vie.
De la vie. Je veux dire, tu ferais sentir là, le tapis de chez ma grand-mère d'il y a 40 ans et je pense que je me ramènerais là dans le temps. Là.
Absolument. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Ryoko Sekiguchi qu'à un moment donné, perdre le sens de l'odorat, c'est perdre sa place dans le monde. À tel point que les odeurs sont notre fondement. Vous me voyez venir, il y a quand même un problème et de taille. Je dois vous avouer que si, comme moi, vous avez lu Nagori avant, vous allez être amèrement déçu.
Okay.
Alors, si vous voulez commencer à vous questionner et à réfléchir et à lire sur les sens, la beauté qui nous a été donnée d'avoir des sens comme ça, commencez par l'appel des odeurs parce que c'est plus... c'est peut-être plus facile d'approche et ensuite aller vers Nagori. Et ça, pourquoi je vous dis ça, c'est que comme bon, Nagori, c'est un essai. Il y avait beaucoup de références à des ouvrages. Nagori, c'est la nostalgie de la séparation. Les fruits de saison. À un moment donné, les fraises, il faut que ça arrête parce que tu peux pas en avoir toute l'année. Mm-hmm. Ça a plus le même sens. Bon, et tout et tout. Tandis que l'appel des odeurs, ce que j'ai trouvé, c'est que du moment où c'est pas un essai et que c'est uniquement basé sur des vignettes de « j'étais à Rome, je me promenais sur une rue X et j'ai senti la pizza mm-hmm. », c'est pas long que c'est répétitif, c'est redondant.
Plus et... anecdotique, à la limite.
Oui, oui. Mm-hmm. Puis tu sais, l'anecdotique, c'est un petit peu comme on se disait précédemment, l'anecdotique, quand tu vois pas le macro ou l'idée derrière, le concept derrière tout ça, ben ça reste vraiment superficiel. Et c'est dommage parce que vers la fin, où c'est vraiment comme si c'était, on suivait une vie humaine, les enfants, la gestion des odeurs par les enfants, les adultes, et vers la fin de la vie, il y a quand même de belles vignettes sur quand on est plus vieux dans la vie et qu'on a tendance à davantage se rappeler ses bons coups, ses mauvais coups, bon, l'importance des souvenirs, de la mémoire, ben c'est de voir le panorama de notre vie à travers les odeurs. Il y a beaucoup de beaux concepts là-dedans qui sont, ne serait-ce que juste égratignés et n'ont pas vraiment analysé mm-hmm. plus à fond pour nous en dire davantage sur notre parcours d'être humain. Et c'est ce qui me fait dire, puis là, je vous vends pas du tout de punch, là, c'est que les deux vignettes que j'ai préférées étaient des vignettes vraiment camper dans du réel d'une vie humaine. Je vous donne un exemple. Il y a une vignette qui parle de Simone Veil qui se souvenait du parfum qu'elle portait avant d'être envoyée à Auschwitz. Et cette odeur-là, elle le dit elle-même, ça m'a aidée à passer au travers. Mais quand elle est sortie du camp et qu'elle a poursuivi sa vie, cette odeur-là, elle cherchait pas nécessairement toujours à la retrouver du fait que c'était soit un moment heureux, j'ai survécu, merci à l'odeur, ou ouf, j'ai dû passer par tout ça. Ouais. Fait que c'est de voir un parcours de vie qui a dû équilibrer toutes les sensations que lui amenait cette odeur-là. Wow. 4 pages puissante, vraiment fantastique.
Très fort.
Mais autrement, on est vraiment, comme je vous disais, dans l'anecdotique qui ne pousse pas plus loin. Puis c'est dommage parce qu'on le voit, le caractère éphémère, donc mortel, des odeurs. Qu'est-ce qui reste après une odeur? Puis tu sais, des fois, on dit, je sens un parfum, ah, oui. telle personne s'en vient. Oui. Tu rentres dans une pièce, « Oh, Monsieur X était ici ouais. il y a 5 minutes, parce que ça sent encore. » Fait que tout ça, ah ouais. le fait, les souvenirs, le temps qui passe, il y aurait tellement eu de beaux liens à faire avec Proust là-dedans. Ouais. Pour les odeurs aussi, c'est un peu...
Donc, une promesse peut-être pas réalisée, menée, aboutie.
Non, c'est pas abouti, puis c'est dommage, parce qu'il y avait tellement de potentiel... Et peut-être qu'elle l'a écrit un peu vite, peut-être que c'était dans l'urgence, il y avait quelque chose, peu importe, je me l'explique mal. Mais comme je vous disais, si vous voulez vous questionner sur les sentiments, les émotions humaines, Ryoko Sekiguchi, c'est vraiment une autrice, c'est une femme super. Commencez par les odeurs, vous allez voir son style, tu sais, on aime ou on n'aime pas, c'est un style particulier, et après... aller déguster la beauté sublime qu'est Nagori.
Nagori. Alors, et on rappelle qu'elle écrit en français, d'ailleurs.
Elle écrit d'ailleurs en français, oui.
Alors, merci Annie Bussière. Merci à tout le monde. On va aller vers une rapide pièce pour le dernier droit d'épilogue.
Zawsze odkładałeś zabawę.
Skarbonkę spojrzeniami mężczyzn, ale będzie miał szansę ją rozbić najlepszy z najlepszych,
najlepszych, najlepszych, najlepszych.
Ten kuszący kwiat ma apetyt na życie. Nie próbuj przecić, chłopcze, zacznij szukać ukrycia. Z łatwością złamie ona, złamie ona twoje nożyczki. Tańcz, mamusiu, tańcz. Wszystko będzie alright. Tańcz, mamusiu, tańcz. Tańcz, mamusiu, tańcz. Do tyłu, do przodu, w lewo i w prawo. Dziś masz na to prawo. Masz na to prawo.
Pan Savian, que Brian, tu as décrit brièvement.
Ah, moi, je tombe sur des drôles d'affaires des fois sur Internet. C'est genre le Gab Pocket polonais. C'est très drôle. Il y a des vidéos très drôles. Il y a une grosse moustache, du linge pas à mode. C'est merveilleux. J'adore ça. J'ai écouté ça toute la semaine. Voilà.
Formidable. Alors, voilà. Mais ça termine sur une note joyeuse, cette émission, quand même, qui avait une bonne charge émotive. Je vous rappelle le livre Un jour, j'ai pu m'envoler, de notre invité Marie-Ève Martel aux éditions Somme Toute. Merci à Geneviève Bossier aussi qui nous parlait d'épinettes de Isabelle La Pointe, chez La Mèche, et Annie Bussière.
L'appel avec, des odeurs.
Alors voilà, merci.
Dans Folio.
Alors merci à tous d'avoir été là. Semaine d'élection municipale, hein, on le rappelle. Pour ceux qui nous écoutaient en direct, vous pouvez même voter par anticipation. Oui. Et sinon, nous, on se retrouve jour du vote, dimanche, fidèle au poste à Épilogue sur les ondes de CKIF.
Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Hasbassar.
Ici Alain Lalancette. Je vous invite au Jazz Bazar tous les dimanches de 17h à 20h sur les ondes de CKIA FM. Je vous offrirai alors un cocktail musical en jazz contemporain, fusion et métissage. Je vous accueille donc dimanche dès 17h au 88,3.
Culture, c'est votre rendez-vous culturel épicurien tous les mercredis à 11h sur les ondes de CKIA FM et CKIAFM.org en compagnie de Julie Réaume. Musique, art de la scène, art visuel, théâtre, bouffe, boisson et plus encore, soyez des nôtres tous les mercredis à 11h pour l'émission Culture.
Une émission qui détend et informe, ça existe. Une heure durant laquelle on vous entretient de faits intéressants, distrayants, mais qui ne sauvent pas des vies. On traite de politique municipale, de la participation des citoyens aux consultations publiques.
À l'occasion, une émission thématique sur une situation particulière, on vous présente des organismes de proximité qui peuvent vous aider à obtenir ou développer le service nécessaire pour améliorer votre quotidien. Parce que Robert,
il n'est jamais trop tard.
Lundi, 18h.
Sprinet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, hey, bo boy. Sprinet et Spandex,